comme ça, ça va.
Ok.
C'est l'heure des programmes de rhizome.
D'accord. Ça compte. Ok.
Ça va ?
Médias participatifs, citoyens.
Ah, toi, tu m'entends dans le casque. On comprend qu'il se passe quelque chose.
Là, juste à côté.
Un, deux.
Oui, il faut parler comme ça, la distance comme ça, ou plus près, ou plus loin. Comme ça, c'est bien ?
Tu fais tes trous ?
Avec une autre aiguille.
Avec celle-là ?
Et alors, le point avant, c'est quoi ? Enfin, je fais ça, puis je fais ça, puis ouais. je fais ça.
Oui. Oui ? Ça va, le son, là ? Je vais peut-être monter un petit peu.
Bonsoir à tous. Nous sommes le 3 juin et comme chaque lundi à la bibliothèque de Montbron, nous nous retrouvons pour notre séance de broderie sur photo, animée par Isabelle. Aujourd'hui, toutefois, c'est un lundi particulier. Ce soir, c'est la dernière émission de l'année et j'en profite pour la dédier à notre copine radio-tricoteuse, Marie, que nous embrassons très fort. Et pour remercier également Isabelle Ledy et Léa Grange, bien sûr, et surtout toutes les personnes qui ont eu l'audace de participer à ce projet. Alors c'est avec émotion que je vais lancer le sujet du jour, à savoir le premier métier exercé. Et pour débuter, je donne la parole à Nicole.
Hop. Est-ce que je peux vous proposer un quiz ?
Bien sûr, Laetitia.
Bon, très bien. Alors, plutôt que de vous raconter mon premier travail ou une histoire comme c'est de rigueur dans nos émissions habituelles, j'ai choisi ce soir de vous proposer un quiz. Alors, un quiz avec 10 noms de métiers relatifs à la broderie, parce que c'est ce qui nous réunit quand même chaque lundi soir. 10 professions oubliées. Alors, si vous voulez bien, je vous donne les noms de ces professions. Vous prenez quelques secondes pour y réfléchir. Dans votre tête, vous comptez au fur et à mesure combien de points vous marquez sur 10. Et puis, à la fin de l'émission, je vous donne les réponses et puis on verra... dans le public ou autour de cette table, qui a gagné ? Et on ne donne pas les réponses, je vous les donnerai en fin d'émission. Ouais. C'est bon ?
On gagne les beignets de Daniel.
On gagne les
Parce
beignets de Daniel.
C'est vrai que Daniel. Cette émission est faite dans une odeur de beignets, c'est très agréable.
Alors, premier métier, parmentier. Un parmentier. Deuxième métier, un récameur. Troisième métier, un chenilleur. Quatrième métier, une appliqueuse ou une striqueuse. Cinquième métier, une chamareuse. Sixième métier, un plumassier. Septième métier, un vélineur. Huitième métier, une ajoureuse. Neuvième métier, une bourselière. Et enfin, dernier métier, un égratigneur. Voilà, je vous laisse cogiter.
Derrière tout ce grand vocabulaire, moi, avec ma petite histoire.
À toi de jouer, Nicole.
Eh bien, je vais commencer par vous parler d'un travail d'été, les premiers petits jobs. Alors, c'était en 1970, donc ça fait quand même très longtemps. Alors, ma voisine, comme tous les ans, proposait que je garde les enfants. Et en salaire, c'était toujours une robe ou un pull. Et j'ai dit non, il n'en est pas question. Cette année, je veux du trébuchant. C'est pour payer mon Solex. Personne n'était très ravi dans mon entourage, mais j'ai quand même fini par avoir un poste dans une coopérative d'éleveurs de volailles. Donc, j'arrive le lundi matin, j'étais prévue pour faire du secrétariat et de l'emballage. Bon, ça pouvait m'aller. Et puis, au dernier moment, on me dit « Mais non, finalement, vous êtes deux recrutés sur ce poste, c'est pas possible. Il y en a une de vous qui va devoir aller à la découpe. » Oh, la découpe, mais c'est de la viande, enfin... J'avais jamais vu de viande crue comme ça, donc je me posais question. Et l'autre qui avait été recruté, nous avions le même âge, était dans le même cas. Donc on a dit on va se réunir. Une réunion à deux, qui ne se connaissent pas. Enfin, on s'en est bien sortis, on a dit on partage. On partage les postes, on fera à tour de rôle toutes les deux comme vous le voulez. Et finalement, ça arrangeait bien tout le monde. Alors, on rentre dans cet atelier. C'était des grandes tables, mais ils n'étaient pas très nombreux, puisque pour l'emballage et le tout, il n'y avait que 8 personnes. C'était quand même assez familial. C'était super propre, mais il faisait très froid et nous n'avions ni l'une ni l'autre de veste plus chaude à enfiler. Donc, il commence par nous montrer comment transformer un vilain poulet en joli poulet dodu. Ça a été vite vu. Pour bien faire ressortir les pattes, il y avait une façon de l'attraper derrière et de tout faire remonter, bien, des bonnes cuissettes. Et puis, le devant, qui n'était pas très beau, on prenait une planche et on tapait dessus. Mais nous, les deux scolaires, là, on tapait 5 fois, 6 fois. C'était jamais beau. Alors qu'il y avait 2 hommes qui travaillaient là. Eux, un petit coup de main, leur poulet était magnifique. Enfin bon, ça a marché quand même. Les employés étaient très sympas. Ils étaient bien patients. Ils nous expliquaient tout tranquillement. Ça plaisantait bien. Et ils trouvaient même qu'on mettait de la bonne humeur dans leur équipe. Donc, c'était déjà ça d'acquis. Mais le clou, c'est quand on a vu arriver des dindes sur nos tables. Mais des grosses dindes. On ne savait pas par quel bout les prendre. Elles étaient énormes. Énormes. Enfin bref, moi je rentrais déjeuner tous les midis chez ma grand-mère. C'était la grande fête, elle était très contente, elle me faisait des bons petits plats, c'était génial. Jusqu'au jeudi, je me revois dans la cuisine, rien ne voulait passer. Elle me dit « Mais tu aimes ça ?» J'ai dit « Oui, mais j'ai vraiment, vraiment la nausée. » Elle me dit « Mais pourquoi ?» Sans mes mains sentaient la volaille et j'étais écœurée, dégoûtée. Moi, je ne pouvais rien avaler. Là-dessus, on a commencé le rituel des gants de toilette à l'eau de Cologne du Mont Saint-Michel. L'eau de Cologne du Mont Saint-Michel, je revois l'étiquette rouge et verte, la belle petite bouteille. Ma grand-mère me préparait un gant pour chaque main. Parce qu'il était hors de question de me verser de l'eau de Cologne sur les mains, tant j'avais des petites coupures et que ça me faisait vraiment trop mal. Mais je peux vous dire une chose, j'ai gardé un bon souvenir malgré tout de cette découverte du milieu du travail. Mais chez moi, il n'y a pas d'eau de Cologne du Mont-Saint-Michel et on ne mange jamais de dinde. Voilà, une histoire vraie.
Est-ce que tu veux continuer, toi, Daniel,
raconter ton
Bon, moi,
ton
ça ne va pas
métier.
Être aussi drôle que Nicole, mais moi, c'est beaucoup plus sérieux. Hein. Bon, alors, certains d'entre nous ont commencé leur vie professionnelle bien jeune, ce qui n'est pas mon cas. Moi, j'ai commencé à travailler à 36 ans, après avoir élevé mes enfants. Nous étions d'accord, mon mari et moi. De tout temps, mon mari a voulu créer sa propre entreprise et l'occasion s'est présentée lorsque la société pour laquelle il travaillait a connu de grosses difficultés. C'était le début des années 80. Il a donc saisi cette opportunité pour monnayer son licenciement contre indemnité, ce qui lui a permis de se lancer dans l'aventure. Et tout naturellement, je me suis associée à ce projet en devenant sa conjointe collaboratrice. Nous nous sommes installés à 7 et nous avons démarré à 2 dans l'équipement du matériel électronique à bord des bateaux de commerce, de pêche et de plaisance. À lui, la partie technique et commerciale. À moi, le côté administratif et comptable. Certes, travailler avec son mari, ce n'est pas une sinécure, loin de là. J'avais donc instauré un système. Quand on était au travail, le boss, c'était lui et j'obéissais. Et quand nous étions à la maison, ben, c'est moi qui commandais, si je peux dire. Bon, les féministes vont dire, bon, allez, ça y est, à lui les honneurs, à elle la popote et le ménage. Mais enfin, on s'en fiche. Il faut dire que toutes les décisions importantes, nous les prenions toujours à deux. Et que cette décision soit bonne ou mauvaise, nous avons toujours assumé tout. Nous avons toujours fait bloc. Bien sûr, les débuts ont été difficiles. J'ai souvent eu peur de ne pas y arriver, parce que notre principale concurrence, c'était notre ancien employeur. Je me souviens en particulier du jour de l'inauguration. Mon Dieu, quelle journée! notre principal fournisseur nous avait prêté le matériel pour l'exposer. Et puis ce jour-là, le ciel était bas, il était gris, il a plu toute la journée. À mon avis, personne, aucun visiteur n'est venu nous voir. Autant vous dire que j'avais le moral dans les chaussettes. Mais mon mari, lui, grâce à son optimisme, ses compétences et son acharnement au travail, il faut dire aussi que la motivation était grande. Nous avions deux adolescents à la maison et que nous n'avions pas fini d'élever. Nous étions condamnés à réussir. Au bout d'une année, nous avons sorti un bilan positif. Il faut dire aussi que pour mon mari, faire 35 heures en deux jours, il n'y a aucun problème pour lui. Ça me fait penser un peu aux gilets jaunes. Lorsqu'il allait au salon nautique à Paris ou bien à Lorient pour le salon de la pêche professionnelle, et ben moi j'étais là, j'étais toujours là, fidèle au poste. Tout ça pour dire que créer une entreprise, c'est beaucoup d'abnégation, c'est pratiquement jamais de vacances, pas vraiment de vie sociale. C'est travailler, travailler, travailler et encore travailler. Nous avons pris notre retraite à 55 et 64 ans. Je dois dire qu'il aurait bien aimé continuer quelques années de plus, pas moi. Pour lui, c'était un peu son bébé, son entreprise. Mais moi, les enfants nous avaient quittés, c'était bon. Hein. Maintenant, ça fait 5 ans que nous sommes à la retraite. Il règne seul sur son jardin et je n'ai pas le droit d'intervenir. Hein. Non, ça, non. De toute façon, je suis bien contente, j'y connais rien au jardinage. Ni aux fleurs, ni aux patates, ni aux salades. Je le laisse faire. Mais moi, j'aime bien partager. Alors, le ménage, à la maison, on le fait tous les deux. Voilà. On a toujours tout partagé, nous, hein, le travail et le boulot à la maison.
Ah, d'accord. Voilà. Le ménage, super.
Mais il y avait déjà la prime de licenciement quand vous avez
repris. Bien sûr.
Je ne savais pas du tout quand
c'était. La société était en difficulté. Donc, on savait qu'il allait y avoir une charrette, comme on disait dans le temps. Hein. Alors, Jean-Luc s'était proposé. Il avait dit, moi, je veux bien partir. Mais... sans dire qu'on avait l'intention
de créer quelque chose.
Et puis voilà. C'est dur hein, de travailler à deux. Enfin bon, on s'en est sorti, c'est ça le plus important.
Mais Daniel, je peux te poser une question ?
Enfin, tu t'étais jamais dit quand tu avais 15 ou 20 ans que tu allais travailler tard ou tu pensais que tu allais travailler tôt ou
non,
comment
pas du tout.
Tu t'étais projetée par rapport au travail ?
C'est la vie qui a fait ça. J'avais 17 ans quand je l'ai rencontré. Lui faisait son service militaire. On était en Tunisie et puis on s'est mariés à 19 ans. Enfin, moi j'avais 19 ans, lui il en avait 28. Et puis, à 20 ans, j'ai eu Eric, à 24, j'ai eu Isabelle, et puis ça a suivi comme ça. Puis à cette époque, c'est vrai, enfin, je sais pas, toi, t'es plus jeune que moi aussi, mais bon, il y avait beaucoup... Mais c'est vrai, les femmes, ma mère a toujours travaillé, ma sœur a toujours travaillé, mais bon, moi, c'est parce que j'ai rencontré mon mari très jeune, c'est tout, ça s'est fait comme ça.
Moi, je ne me suis jamais posé la question de trouver du travail ou pas. Mon mari déménageait régulièrement, mais à chaque fois, je trouvais du travail.
Ben voilà, ça s'est passé comme ça pour moi.
Non, parce que moi... Vas-y, je te passe... Oui, tu veux le livre. J'arrive pas à trouver le point que je veux faire pour ma création, mais c'est pas grave. Ce que je voulais dire, c'était que... En fait, quand j'ai commencé à travailler, j'avais 15 ans, et c'était une évidence qu'il fallait que je travaille. Et c'est par rapport à ça que je te pose la question. C'est-à-dire que on m'avait dit, j'avais été éduquée dans cette pensée-là, qui était, il faut travailler pour gagner de l'argent, pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, sortir, s'acheter une maison. Enfin, là, je parle de projets plus vastes, mais... Et du coup, dans ma tête, il fallait que je travaille.
Toi, tu as 30 ans. Moi, j'en ai 70.
Oui, oui.
C'était pas la même époque.
C'est pas la même époque. Non, mais c'est pour ça que ça m'intéressait de comprendre.
Mais ma fille, je lui ai toujours dit qu'il fallait qu'elle travaille.
Elle a
commencé par faire des crêpes sur la plage, des choses comme ça. Elle dépensait le jour même, parce qu'elle était payée à la journée. Alors, elle dépensait tout. Le soir, quand elle rentrait à la maison, elle n'avait déjà plus rien. C'est de dire ce qu'elle pouvait gagner.
Et alors, moi, du coup, je me suis dit, je vais trouver un travail. Donc, mon premier boulot. J'avais 15 ans, c'était l'été de la troisième, si je dis pas de bêtises, ou l'été de la seconde, j'ai un doute. Bon, bref. Et j'étais pistonnée par ma maman, qui travaillait dans une entreprise, elle était secrétaire de direction, donc c'était une entreprise avec des bureaux et des papiers. Et ça a été de ranger des papiers, de faire de l'archivage de documents, ce qui n'était pas du tout passionnant, mais... On peut se demander si c'était vraiment utile à la structure, mais en tout cas, elle déménageait et il fallait ranger, classer, jeter certains documents et en garder d'autres. Et alors après, j'ai enchaîné tout un tas de boulot. Et quand on a parlé de la thématique du travail et qu'il fallait raconter une anecdote, je me suis dit, bon, mais qu'est-ce que j'ai bien pour raconter ? J'ai fait des boulots, d'accord. Mais du coup, ça m'a interrogée sur ma position par rapport au travail aujourd'hui et quand j'ai eu mon premier travail. Et donc, il y a 15 ans, je me disais, bah, je travaille, je gagne de l'argent et avec cet argent, je pourrais faire tout un tas de trucs. Et maintenant, ma position sur le travail, elle est différente. C'est plutôt, j'ai pas spécialement envie de travailler pour gagner beaucoup d'argent parce que après, ok, j'ai de l'argent, mais si j'ai pas de temps pour vivre, si j'ai pas de temps pour aller faire ce que j'ai envie de faire ou voir les gens que j'aime, avec qui j'ai envie de partager des moments, ben en fait, ça m'intéresse pas, pas tant que ça. Et alors, je préfère, travailler moins, gagner moins, mais
profiter
de la vie. Exactement. Merci d'avoir fini ma phrase. Et voilà, du coup, c'est le fait de réfléchir à tout ça, à cette thématique du travail, j'avais envie de partager avec vous 15 ans de vagabondage à travers différents métiers et petit boulot, puis mon travail que j'avais envie de faire, qui est comédienne, m'a apporté cette réflexion-là. Et aujourd'hui, je me situe à cet endroit-là avec le travail. Voilà.
Je trouve que c'est bien, mais c'est une façon de voir des plus jeunes, parce que... Nous, à notre époque, c'était pas du tout comme ça qu'on le voyait. Même si, quelquefois, on était obligé de faire des pauses, on n'avait pas du tout cet objectif. Enfin, on ne pensait pas du tout à profiter. Valeur, le travail est une... Travail, famille, patrie, quoi, presque.
Oui, je crois qu'aujourd'hui, en plus, peut-être on a la possibilité de vivre dans une société où on est plus libre, ou en tout cas, on peut rêver la vie plus facilement. Qui a peu de décennies. Enfin, voilà. J'ai l'impression de ça, qu'on peut se permettre. Enfin, pas partout, hein, mais pas partout mais dans le monde.
Je trouve à la limite que c'est dommage, parce que nous, on est des, je dirais, juste post-68ards, qui avaient cet objectif-là. Et j'ai l'impression, moi j'étais trop jeune pour avoir fait 68, mais j'ai l'impression qu'une fois que mai 68 a été fini, on a complètement tout rangé et on est reparti de travers.
Je sais pas, moi je ne me rends pas compte.
Si, il y avait des idées comme ça qui étaient montées, où les gens avaient envie de faire de la musique, on voyait beaucoup de gens qui voulaient écrire, qui voulaient vraiment s'épanouir. Et puis peu de temps après, on s'est remis dans les moules comme des fous. Ça se dit pas comme ça, mais...
Ah, oh, Marie-Paul, t'es là, c'est bon, super. Tu veux nous raconter ton histoire ?
Une histoire de premier travail. C'était un stage en fait dans le cadre de l'école dans laquelle j'étais inscrite. Mais pour moi, c'était vraiment mon premier travail, la découverte du monde du travail. Et donc ça se déroulait au Centre interprofessionnel des vins de Bordeaux. C'était un endroit magnifique, très près du théâtre de Bordeaux, aux allées de Tourny, des très grands salons. Et j'ai été très bien accueillie. Par le personnel. Le rôle consistait dans ce travail à orienter les gens sur les grands châteaux de Bordeaux, leur donner des cartes, leur fixer des rendez-vous pour des visites. C'était un travail très intéressant. Et ça m'a permis aussi de découvrir surtout les relations humaines dans le monde du travail. Et déjà, à l'époque, c'était pas très simple. Il y avait deux employés à l'accueil en permanence, qui se détestaient ouvertement. Et c'était un peu compliqué d'être là entre eux deux. Moi, j'étais toute jeune. Mais j'aimais beaucoup l'ambiance masculine, où il y avait beaucoup de gens qui donc organisaient des dégustations de vin pour que les viticulteurs obtiennent des appellations contrôlées. L'ambiance était très agréable avec ces messieurs. Les filles à l'accueil, c'était beaucoup moins sympathique. Mais j'arrivais bien à me débrouiller, à essayer de temporiser entre elles deux, qui vraiment se détestaient. Mais le travail était très intéressant et j'aimais beaucoup cette ambiance et ce monde de vinicole. C'était assez intéressant. Et puis, on côtoyait des gens qui venaient de tous les horizons. Notamment, je me souviens d'un couple de Brésiliens qui avait un restaurant dans le nord du Brésil et qui venait faire un circuit dans le Bordelais. Et donc, il a fallu leur organiser des visites dans les châteaux et découvrir. Et ça, c'était vraiment un travail que j'aimais beaucoup, un travail très intéressant. Pas vraiment mon premier travail, puisque c'était un stage, mais qui néanmoins avait été rémunéré. Et à l'époque, c'était fabuleux, parce qu'avoir cette somme pour 3 semaines de stage, c'était formidable. J'en garde un très beau souvenir. Ça a été une belle découverte du monde du travail et de ce travail que j'aurais aimé par la suite poursuivre, mais ce n'a pas été le cas. Voilà. J'ai pris d'autres voies.
Tu pouvais déguster les vins ?
Alors non, nous on n'avait pas le droit, mais on nous donnait à la fin des dégustations, puisqu'il fallait des échantillons de 5 à 6 bouteilles pour qu'ils testent ces vins et qu'ils obtiennent des appellations contrôlées. Et après on nous proposait, si on voulait, d'amener les vins à l'appartement. Voilà. Et les copains étaient très très contents pour le coup. Mais non, moi je ne faisais pas partie des dégustations parce que ça demande quand même des compétences très spécifiques. Voilà.
Et tu avais une tenue particulière ?
Ah oui, forcément, à l'époque, la profession d'hôtesse nécessitait un vêtement particulier, enfin un uniforme. On avait un uniforme qui était assez moche, faut dire. Mais bon, ça faisait partie du jeu. Et on était obligé de porter cet uniforme pendant toute la durée du stage. Les filles qui étaient à l'aéroport à Bordeaux, d'autres qui étaient dans toutes sortes d'entreprises. On avait l'obligation de porter notre uniforme pour tous les stages, toutes les soirées auxquelles on était conviés pour faire tout un tas de choses. J'avais une amie qui avait travaillé, elle, au Salon Pernod, pareil, pas très loin du théâtre. Et il y avait des grandes réceptions qui étaient organisées et elle devait être en tenue. On avait l'obligation d'être en tenue. C'était très moche, c'était bleu canard. Ce serait très à la mode peut-être aujourd'hui. On n'aimait pas trop nos uniformes, mais on était bien obligés de les porter. Voilà, mais bon, hormis le problème de l'uniforme, j'aimais beaucoup ce travail. Et j'aurais bien aimé continuer dans cette voie-là.
C'est bien, tu avais quel âge ?
J'avais 18 ans.
Ah oui, tu étais toute jeune.
Oui, voilà.
Tu peux me passer les ciseaux, s'il te plaît, que je coupe mon fil.
Oui. Voilà, la couture continue en même temps, ça c'est bien.
Merci.
Et alors toi, Nicole, ton vrai premier travail, c'était un travail d'infirmière ?
Ah non, pas vraiment infirmière. Je n'étais pas dans le soin, j'étais plus dans le côté technique. Mais j'ai été surprise dès mon entrée à l'école. C'était...
Surprise par quoi ?
Surprise par la discipline de cette école. Je ne vous dirai pas tout, parce que c'était vraiment très très strict. Dans la première année, on était assez nombreux, puisque nous avions comme un trimestre commun avec les infirmières, les sages-femmes, les manip radio, on était tous ensemble. Et au programme, on avait dans la première semaine une journée tenue vestimentaire. Passer toute une journée sur une tenue vestimentaire, ça nous faisait un peu drôle. Donc, en effet, le matin, on voit la directrice arriver dans l'amphithéâtre. La directrice rentre, tout le monde debout. Tout le monde se lève. Je vais vous donner les consignes de présentation. Bon. Vous aurez les cheveux courts ou attachés. Les mains. Ongles courts, sans vernis. Pas de bagues, pas de bracelet. Je continue, je ne supporte aucun vernis à ongles, je ne supporte pas les bagues. C'est ancré. Après, pour les tenues de service, vous verrez cet après-midi avec les monitrices. Et pour les vêtements à l'école, j'ai quand même quelques précisions à vous donner. Pas de pantalon et seulement des jupes ou robe qui vous arrive aux genoux. Nous étions en 72, quelque chose comme ça. C'était la mode des mini-jupes. On ne faisait pas de concours, mais on était toutes habillées bien court. Donc, dès la sortie de son intervention, on se précipite un bon nombre à Prisu, parce qu'à Prisu, il y avait des vêtements pas chers. Et à Prisu, je me suis trouvée une petite jupe grise plissée qui m'arrivait bien aux genoux. Ma copine l'a prise en bleu marine. une jupe écossaise, toute moche, toute, enfin, molle, toute vilaine. Ma copine l'avait prise en verte. On était ridicules. Enfin, ça fait rien. On avait trouvé des vêtements pas chers. On n'avait plus de sous pour la semaine. On a dû partager nos tickets de repas. Et la semaine est passée comme ça, mais on a aussi repéré, en rentrant de Prisu, qu'il y avait un petit bois à l'entrée de l'hôpital. Et que pour quitter l'hôpital, soit on roulotait nos jupes pour être un peu plus courtes, soit on avait une tenue de rechange dans notre sac ou dans notre sacoche, et on pouvait facilement se mettre en pantalon et en petite robe à la mode. Donc pour la tenue de sortie, c'était trouvé. L'après-midi, essayage des tenues de travail. Ils nous mettent en groupe de 15 ou 20. Donc, on rentre dans une salle et dans la salle, il y avait une grande table en longueur avec 3 chaises de chaque côté. La moditrice nous dit « Prenez chacune une tenue à votre taille, une blouse et un tablier. Pour les bonnets, vous verrez après. » Moi, je n'étais jamais rentrée pour faire attention comment est habillé les gens des services soignants. Bon, donc, on enfile chacune une blouse et on prend notre tablier à la main, puisque le tablier, il ne fallait le mettre qu'après. À chaque bout de table, il y avait une chaise. Donc, une fille monte dans une chaise à un bout. Une autre fille, je dis des filles parce qu'il y avait très peu d'hommes, monte dans la chaise à l'autre bout et on se retrouve sur la table en blouse. On aurait voulu le faire exprès, on n'aurait pas mieux fait. Dans ma promotion, il y avait une fille qui mesurait plus d'1m75, qui devait peser 90 à 100 kilos, très carrée, très forte. Et en face, montait à l'autre bout de table, une fille 1m55 à tout casser, 45 kilos, une puce. C'était extraordinaire. Elle monte sur la table, elles sont en blouse, elles tournent pour bien montrer que les blouses étaient bien rondes. On leur fait un petit retour de blouse à l'une pour raccourcir, l'autre ça allait. Et par là-dessus, on enfile le tablier. Fallait que la blouse soit bien large, fallait pas qu'elle nous moule, évidemment. Fallait qu'on soit très à l'aise dans les vêtements. Le tablier par là-dessus, bien serré, le beau nœud derrière bien fait. Et ça commence, on se penche en avant, on se penche sur un côté, à gauche, on se penche à droite. Il ne fallait surtout pas que le bas de la blouse soit au-dessus du pli du genou quand on faisait les mouvements. Alors, s'il y en a qui vous parlent du fantasme de la blouse d'infirmière, dites-leur bien que ça n'a pas toujours existé. C'était ça l'essayage. Mais bon, c'était le début du métier. J'ai continué ce métier toujours après. C'est un métier qui s'est énormément modernisé, qui était toujours à la pointe du progrès technique. Mais ce qu'il fallait surtout pas oublier, qui n'était pas écrit, c'était pour moi, c'était l'essentiel. C'était faire preuve d'humanité. Voilà. C'est tout. Mais je vous ai quand même emporté une photo d'une tenue d'infirmière de l'époque.
Ah, ça rigolait pas, ouais.
C'est conforme à ta description, avec le voile.
Et en première année, on avait le voile qui pendait derrière. Et en deuxième année, et non, on le rentrait bien. Et tous les dimanches soirs, on abîmait nos voiles. Pour que, quand il était, en première année, il était mou derrière, comme des bonnes sœurs, comme une religieuse. Et en deuxième année, on avait une jolie choucroute. C'était les tenues de l'époque. Mais vite, dans les services où on allait en stage, nous, on a vu que les filles enlevaient les tabliers. Donc, tout le monde était en blouse et c'était beaucoup plus simple. Et donc, j'ai vu l'évolution des tenues, puisqu'après, je crois que c'est Chanel qui nous avait fait une collection de blouses à partir de 73 ou 74. Carrément Chanel.
Comme... Moi, je trouve ça va, conseillant.
Tu trouves, hein, c'est bien. Hein.
C'est beau.
Bon, je vous donne les réponses au quiz. Vous pensez que vous avez combien de points ?
3.
3 ?
Et encore, je ne suis pas sûre.
Je suis optimiste. 1.
Ah non, moi, franchement, aucun.
Bon, allez, je vous donne les réponses.
On peut tenter, tu peux redire le nom et on tente notre chance.
Ben, vas-y, bien sûr. Le premier nom de métier autour de la broderie, c'était parmentier.
Non, mais ça, j'ai pas.
Mais si, c'est ceux qui font les rubans.
Alors, un parmentier, je l'ai trouvé qu'au masculin, je ne l'ai pas trouvé au féminin. Alors, je ne sais pas si c'était occupé que par des hommes, je ne sais pas. C'était un fabricant de broderies, de galons et de parements. Un parmentier. Rien à voir avec la pomme de terre, non. Alors, le deuxième, c'était un récameur. Bah, c'était un brodeur, tout simplement. Et là, c'est pareil, je l'ai trouvé qu'au masculin. Peut-être que ça existait aussi au féminin, je ne sais pas. Un récameur, c'est un brodeur. Après, le numéro 3, c'était un chenilleur. Quelqu'un avait trouvé ? C'est un ouvrier passementier qui posait de la chenille. Et comme la chenille, c'est des poils longs, bon, ça doit être aussi, ça doit marcher pour du velours. Voilà, un chenilleur, c'est quelqu'un qui, qui pose de la chenille. Après, le quatrième, c'était une appliqueuse ou alors une striqueuse. C'est deux synonymes.
Qui applique tout un tas de trucs.
L'école, eh oui, mais qu'est-ce qu'elle appliquait ? Comme ça, l'école, les manches.
Son travail, c'était de coudre des fleurs et des parures sur des dentelles. Après, je vous avais proposé une chamarreuse. Donc, elle décorait les vêtements de passementerie, de dentelles et de galons. Ça me fait un peu penser à ta broderie, la première, là, du cactus.
Peut-être.
J'ai pensé à ça. Le sixième, et là, vous avez réagi, un plumassier.
Oui.
Alors, un plumassier.
Dans le public.
C'est ça. C'est ça, un artisan qui coud de la plume sur des chapeaux ou des vêtements. C'est ça, qui travaille avec la plume.
Un point.
Un point, oui,
un
c'est
beignet.
Ça. Un beignet. En septième, je vous avais proposé un vélineur.
Le velin, c'est du papier.
Oui. Ouais. Et c'est autre chose que du papier.
Oui, moi, j'avais pensé ça aussi, les patrons.
C'est de la dentelle ou de la toile très, très fine. Alors, je ne sais pas si la toile sur laquelle sont collées nos photos, ça peut être considéré comme du vélin. Non, c'est trop épais. Donc, un vélineur, c'est quelqu'un qui fabriquait du vélin, de la dentelle ou de la toile très, très fine. Ensuite, je vous avais proposé une ajoureuse.
Bah, quelqu'un qui fait des jours dans la dentelle.
C'est ça, c'est ça.
Qu'est-ce ? Un beignet.
C'est ça. Qui embellit les chemisiers, les nappes et le linge en faisant des jours, c'est-à-dire en tirant les fils de tissu dans les deux sens. Neuvième, il y avait une bourselière.
Qui fabrique des bourses ?
Ouais, qui les fabrique, mais aussi qui les orne, qui les décore.
Et qui les décore. Ben oui, évidemment.
Et enfin, en dernier, je vous avais proposé un nom de métier, un vieux métier, un égratigneur.
Qui griffe le tissu.
Oui,
pour donner des griffes.
Il égratigne, c'est ça. C'est un ouvrier qui ornait la soie en se servant d'une pointe de fer. Cette pointe de fer s'appelait un égratignoir. Il la grattait superficiellement pour la marquer. Mmh. Voilà pour le quiz. Eh bien, on n'a pas marqué beaucoup de points ce soir. On pourra manger quand même des beignets de Daniel.
Oui, je ne les ramène pas.
Mais est-ce qu'il n'y a plus beaucoup de ces métiers qui existent encore ?
Après, c'est peut-être de l'artisanat d'art, les bourselières peut-être, les chamareuses aussi, les vêtements de...
Ouais, les enfants,
de tradition, ou les uniformes. Ou...
En tout cas, c'est plus des métiers
à proprement dit.
Ouais, ceux qui font les vêtements de l'Académie française ou les choses comme ça.
Non, alors ça,
les
après, il y a
les préfets.
Non, ça, c'est en fait, c'est la broderie d'or. Et ça se fait à Rochefort. C'est le seul atelier qui continue à faire les vêtements des amiraux et des académiciens. Maintenant, tous ces métiers donc, ont disparu les uns derrière les autres. Il y a encore en métier d'art, il y a encore quelques métiers d'art sur le textile et qui s'adressent essentiellement à la haute couture. Voilà. Avant, tous ces métiers-là servaient aux vêtements de l'aristocratie et d'une certaine bourgeoisie. Où à l'époque, on faisait énormément faire les vêtements. En fait, il y a eu les grands magasins. Mais il y a eu... Moi, ma mère, qui est de 1933, donc dans les années 50, était toute jeune, elle se faisait faire encore ses vêtements. Et c'était pas... Mes grands-parents n'étaient pas très riches. Mais on allait chez la couturière et le tailleur pour se faire encore des vêtements, pour se faire faire des vêtements. Donc ça, c'était encore dans les années 50-60. Et puis ensuite, tous ces métiers ont peu à peu disparu. En tout cas, tous ces métiers qui s'adressaient à tout un chacun. Mais en plumassier, c'est pareil, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Et les plumassiers, alors c'est beaucoup pour la haute couture et beaucoup aussi pour les cabarets. C'est-à-dire qu'on utilise au Lido, au Moulin Rouge, voilà, et puis il y a encore quelques spectacles. Voilà, on fait encore appel à des plumassiers. Ce qui est compliqué, c'est d'avoir les plumes. Donc il y a pas mal de plumes qui viennent d'Asie quand même. Et c'est vrai que c'est des métiers qui sont peu à peu qui ont disparu parce que plus assez de demandes. Et puis tout a été, il y a eu beaucoup de machines. Donc en fait, ces métiers qui étaient un peu intermédiaires ont disparu. La personne qui appliquait les galons, voilà, c'est des galons qui sont appliqués. Même quand c'est appliqué à la main, ce n'est plus un métier à part entière d'appliquer des galons. Voilà, donc pour conclure, ce dernier enregistrement de Radio Tricot qu'on a pu faire tout au long de cette année 2018-2019 à la médiathèque de Montbron. Je tenais à dire que ce soir, nous avions du public. Donc ça, nous sommes très très contents. Bravo le public. Voilà, nous sommes très très contents d'avoir ce public puisque ces émissions, ces enregistrements pouvaient être publics. Voilà, donc merci à vous. Et je tenais surtout à remercier les brodeuses et les brodeurs qui avaient travaillé, créé tout au long de cette année, qui ont brodé, appris beaucoup de points de broderie, pas mal de techniques, et qui du coup ont retravaillé des photos. Pour pouvoir faire leur propre création. Donc les photos, c'était aussi, comme nous avons travaillé sur la mémoire, mais ces photos, c'était la petite étincelle pour faire un peu ressurgir peut-être des histoires, des souvenirs. Et puis, tout ce travail, toute cette création fait remonter de la part de chacun, en fonction des thématiques que nous avions choisies, a fait remonter des... certains souvenirs, certains drôles, certains plus tristes, certains plus anecdotiques, voilà. Et pendant tous ces quatre, au cours de ces quatre thématiques, vous nous avez un petit peu fait voyager, voilà, à travers le temps, à travers le monde aussi, parce que nous avons eu, dans le premier voyage, nous avons eu des excursions assez étonnantes. Donc, Léa et moi, nous vous remercions vraiment beaucoup. Donc, ce projet a été porté par Chimera Fabrique, qui est l'association dont nous faisons partie. Et je voulais aussi remercier toutes les autres personnes qui ont permis que ce projet existe, c'est-à-dire Valérie, de la médiathèque de Montbron. Et nous avons aussi la mairie, qui a soutenu ce projet financièrement, ainsi que la DRAC et le SDL. Voilà, donc nous vous remercions et puis j'espère que ces histoires et ces anecdotes donneront peut-être aux personnes qui écouteront les podcasts l'envie peut-être de raconter ou de se raconter à un autre moment. Voilà, merci.
Merci à vous.
Je recherchais toujours la douceur du tissu et au départ, je reconnais que ça m'a perturbée.
Allez, c'est bon.
C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.
Oh, c'est pas vrai de me faire rire, là, elle rigole comme une bossue. Je te regarde pas. Attends, fais...